Félion et Sébastien tenaient compagnie à Rabourdin. Félion escorta courageusement l'homme tombé jusqu'à la rue du Faux en lui exprimant une respectueuse admiration. Il revint satisfait de lui-même reprendre sa place après avoir rendu les honneurs funèbres au talent administratif méconnu. Bissou, voyant entrer Félion, dictris causa dis placuit sed vita catoni. Félion, oui, monsieur. Poiré, qu'est-ce que cela veut dire ? Fleury, que le parti prêtre se réjouit et que M. Rabourdin a l'estime des gens d'honneur. Dutoc, piqué. Vous ne disiez pas cela hier. Fleury, si vous m'adressez encore la parole, vous aurez ma main sur la figure, vous. Il est certain que vous avez chipé le travail de M. Rabourdin. Dutoc sort. Allez vous plaindre à votre monsieur des Lupeaux, espion. Bissou, riant et grimaçant comme un singe. Je suis curieux de savoir comment ira la division. Monsieur Rabourdin était un homme si remarquable qu'il devait avoir ses vues en faisant ce travail. Le ministère perd une fameuse tête. Il se frotte les mains. Laurent. Monsieur Fleury est mandé au secrétariat. Les employés des deux bureaux. Enfoncés. Fleury en sortant. Ça m'est bien égal. J'ai une place d'éditeur responsable. J'aurai toute la journée à moi pour flâner ou remplir quelques places amusantes dans le bureau du journal. Bissou. Dutoc a déjà fait destituer ce pauvre des rois accusé de vouloir couper les têtes. Tuilier. Des rois ? Bissou. Recevez mes compliments, il est joli celui-là. Colville entrant joyeux. Messieurs, je suis votre chef. Tuilier, il embrasse Colville. Ah, mon ami, je le serai comme tu l'es, je ne serai pas si content. Bissou. C'est un coup de sa femme, mais ce n'est pas un coup de tête. Éclat de rire. Poiré. Qu'on me dise la morale de ce qui nous arrive aujourd'hui. Bissou. La voulez-vous ? L'antichambre de l'administration sera désormais la chambre, la cour en est le boudoir, le chemin ordinaire en est la cave. Le lit est plus que jamais le petit sentier de traverse. Poiré. Monsieur Bissou, je vous en prie, expliquez-vous. Bissou. Je vais paraphraser mon opinion. Pour être quelque chose, il faut commencer par être tout. Il y a évidemment une réforme administrative à faire, car, ma parole d'honneur, l'État vole autant ses employés que les employés volent le temps dû à l'État. Mais nous travaillons peu parce que nous ne recevons presque rien. Nous trouvons en beaucoup trop grand nombre pour la besogne à faire, et ma vertueuse Rabourdin a vu tout cela. Ce grand homme de bureau prévoyait, messieurs, ce qui doit arriver, et ce que les niais appellent le jeu de nos admirables institutions libérales. La Chambre va vouloir administrer et les administrateurs voudront être législateurs. Le gouvernement voudra administrer et l'administration voudra gouverner. Aussi, les lois seront-elles des règlements et les ordonnances deviendront-elles des lois. Dieu fit cette époque pour ceux qui aiment à rire. Je vis dans l'admiration du spectacle que le plus grand railleur des temps modernes, Louis XVIII, nous a préparé. Stupéfaction générale. Messieurs, si la France, le pays le mieux administré de l'Europe, est ainsi, jugez de ce que doivent être les autres. Pauvre pays, je me demande comment ils peuvent marcher sans les deux chambres, sans la liberté de la presse, sans le rapport et le mémoire, sans les circulaires, sans une armée d'employés. Ah ça, comment ont-ils des armées, des flottes ? Comment existent-ils sans discuter à chaque respiration et à chaque bouchée ? Ça peut-il s'appeler des gouvernements, des patries ? On m'a soutenu, des farceurs de voyageurs, que ces gens prétendent avoir une politique et qu'ils jouissent d'une certaine influence, mais je les plains. Ils n'ont pas le progrès des Lumières, ils ne peuvent pas remuer des idées, ils n'ont pas de tribuns indépendants. Ils sont dans la barbarie. Il n'y a que le peuple français de spirituel. Comprenez-vous, monsieur Poiré ? Poiré reçoit comme une secousse. Qu'un pays puisse se passer de chef de division, de directeur généraux, de ce bel état-major, la gloire de la France et de l'empereur Napoléon, qui eut bien ses raisons pour créer des places. Tenez, comme ces pays ont l'audace d'exister, et qu'à Vienne on compte à peu près 100 employés au ministère de la guerre, tandis que chez nous, les traitements et les pensions forment le tiers du budget, ce dont on ne se doutait pas avant la Révolution. Je me résume en disant que l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui a peu de choses à faire, devrait bien proposer un prix pour qui résoudra cette question. Quel est l'État le mieux constitué de celui qui fait beaucoup de choses avec peu d'employés, ou de celui qui fait peu de choses avec beaucoup d'employés ? Poiré. Est-ce là votre dernier mot ? Bissou. Yes, sir. Ja, mein Herr. Si, seigneur. Da. Je vous fais grâce des autres langues. Poiré, il lève les mains au ciel. « Mon Dieu, et l'on dit que vous êtes spirituel. » Bissou, vous ne m'avez donc pas compris ? Félion, cependant la dernière proposition est pleine de sens. Bissiou. Comme le budget, aussi compliqué qu'il paraît simple, et je vous mets ainsi comme un lampion sur ce casse-cou, sur ce trou, sur ce gouffre, sur ce volcan, appelé par le constitutionnel l'horizon politique. Poiré. J'aimerais mieux une explication que je puisse comprendre. Bissiou. Vivre à Bourdin. Voilà mon opinion. Êtes-vous content? Colville gravement. Monsieur Rabourdin n'a eu qu'un tort. Poiré. Lequel? Colville. Celui d'être un homme d'État au lieu d'être un chef de bureau. Félion en se plaçant devant Bissiou. Pourquoi, monsieur, vous qui comprenez si bien monsieur Rabourdin, avez-vous fait cette affreuse caricature? Bissiou. Et notre pari, oubliez-vous que je jouais le jeu du diable et que votre bureau me doit un dîner au Rocher de Cancale? Poiré, très chiffonné. Il est donc dit que je quitterai le bureau sans avoir jamais pu comprendre une phrase, un mot, une idée de M. Bissiou. Bissiou. C'est votre faute. Demandez à ces messieurs. Messieurs, avez-vous compris le sens de mes observations? Sont-elles justes, lumineuses? Tous. Hélas, oui. Minard. Et la preuve, c'est que je viens d'écrire ma démission. Adieu, messieurs, je me jette dans l'industrie. Bissiou. Avez-vous inventé des corsets mécaniques ou des biberons, des pompes à incendie ou des paracrottes, des cheminées qui ne consomment pas de bois ou des fourneaux qui cuisent les côtelettes avec 3 feuilles de papier? Minard en s'en allant. Je garde mon secret. Bissiou. Eh bien, jeune Poiré jeune, vous le voyez, ces messieurs me comprennent tous. Poiré humilié. Monsieur Bissiou, voulez-vous me faire l'honneur de me parler une seule fois mon langage en descendant jusqu'à moi? Bissiou en guignant les employés. Volontiers. Il prend Poiré par le bouton de sa redingote. Avant de vous en aller d'ici, peut-être serez-vous bien aise de savoir qui vous êtes. Poiré, vivement. Un honnête homme, monsieur. Bissiou. De définir, d'expliquer, de pénétrer, d'analyser ce que c'est qu'un employé. Le savez-vous? Poiré, je le crois. Bissiou tortille le bouton. J'en doute. Poiré. C'est un homme payé par le gouvernement pour faire un travail. Bissiou. Évidemment, alors un soldat est un employé. Poiré, embarrassé. Mais non. Bissiou. Cependant, il est payé par l'État pour monter la garde et passer des revues. Vous me direz qu'il souhaite trop quitter sa place, qu'il est trop peu en place, qu'il travaille trop et touche généralement trop peu de métal, excepté toutefois celui de son fusil. Poiré ouvre de grands yeux. Eh bien, monsieur, un employé serait plus logiquement un homme qui, pour vivre, a besoin de son traitement et qui n'est pas libre de quitter sa place, ne sachant faire autre chose qu'expédier. Bissiou. Ah, nous arrivons à une solution. Ainsi, le bureau est la coque de l'employé. Pas d'employé sans bureau, pas de bureau sans employé. Que faisons-nous alors du douanier? Poiré essaie de piétiner, il échappe à Bissiou qui lui a coupé un bouton et qui le reprend par un autre. Bah, ce serait dans la matière bureaucratique un être neutre. Le gabelou est à moitié employé, il est sur les confins des bureaux et des armes, comme sur les frontières, ni tout à fait soldat, ni tout à fait employé. Mais papa, où allons-nous? Il tortille le bouton. Où cesse l'employé? Question grave. Un préfet est-il un employé? Poiré timidement. C'est un fonctionnaire. Bissiou. Ah, vous arrivez à ce contresens qu'un fonctionnaire ne serait pas un employé. Poiré, fatigué, regarde tous les employés. Monsieur Godard a l'air de vouloir dire quelque chose. Godard. L'employé serait l'ordre et le fonctionnaire un genre. Bissiou souriant. Je ne vous croyais pas capable de cette ingénieuse distinction, brave sous-ordre. Poiré. Où allons-nous? Bissiou. Là, là, papa, ne marchons pas sur notre longe. Écoutez et nous finirons par nous entendre. Tenez, posons un axiome que je lègue au bureau. Où finit l'employé, commence le fonctionnaire. Où finit le fonctionnaire, commence l'homme d'État. Il se rencontre cependant peu d'hommes d'État parmi les préfets. Le préfet serait alors un neutre des gens supérieurs. Il se trouverait entre l'homme d'État et l'employé, ce que le douanier se trouve entre le civil et le militaire. Continuons à débrouiller ces hautes questions. Poiré devient rouge. Ceci ne peut-il pas se formuler par cette maxime digne de La Rochefoucauld? Au-dessus de 20 000 francs d'appointement, il n'y a plus d'employés. Nous pouvons mathématiquement en tirer ce premier corollaire. L'homme d'État se déclare dans la sphère des traitements supérieurs. Et ce non moins important et logique corollaire, les directeurs généraux peuvent être des hommes d'État. Peut-être est-ce dans ce sens que plus d'un député se dit « c'est un bel état que d'être directeur général ». Mais dans l'intérêt de la langue française et de l'académie, Poiret, tout à fait fasciné par la fixité du regard de Bixiou. La langue française, l'académie. Bixiou, il coupe un second bouton et ressaisit le bouton supérieur. Oui, dans l'intérêt de notre belle langue, on doit faire observer que si le chef de bureau peut, à la rigueur, être encore un employé, le chef de division doit être un bureaucrate. Ces messieurs, ils se tournent vers les employés en leur montrant le second bouton coupé à la redingote de Poiret. Ces messieurs apprécieront cette nuance pleine de délicatesse. Ainsi, Papa Poiret, l'employé, finit exclusivement au chef de division. Voici donc la question bien posée, il n'existe plus aucune incertitude. L'employé qui pouvait paraître indéfinissable est défini. Poiret, cela me semble hors de doute. Bixiou, néanmoins faites-moi l'amitié de résoudre cette question. Un juge étant inamovible, conséquemment ne pouvant être, selon votre subtile distinction, un fonctionnaire et n'ayant pas un traitement en harmonie avec son ouvrage, doit-il être compris dans la classe des employés ? Poiret, il regarde les corniches. « Monsieur, je n'y suis plus. » Bixiou, il coupe un troisième bouton. « Je voulais vous prouver, monsieur, que rien n'est simple. Mais surtout, et ce que je vais dire, et pour les philosophes, si vous voulez me permettre de retourner un mot de Louis XVIII, je veux faire voir que, à côté du besoin de définir, se trouve le danger de s'embrouiller. » Poiret s'essuie le front. « Pardon, monsieur, j'ai mal au cœur. » Il veut croiser sa redingote. « Ah, vous m'avez coupé tous mes boutons. » Bixiou, eh bien, comprenez-vous ? Poiret mécontent. Oui, monsieur, oui, je comprends que vous avez voulu faire une très mauvaise farce en me coupant mes boutons sans que je m'en aperçusse. Bixiou gravement. Vieillard, vous vous trompez, j'ai voulu graver dans votre cerveau la plus vivante image possible du gouvernement constitutionnel. Tous les employés regardent Bixiou, Poiret stupéfait le contemple dans une sorte d'inquiétude. Et vous tenir ainsi ma parole ? J'ai pris la manière parabolique des sauvages. Écoutez, pendant que les ministres établissent à la Chambre des colloques à peu près aussi concluants, aussi utiles que le nôtre, l'administration coupe des boutons aux contribuables. Tous. Bravo, Bixiou. Poiret qui comprend. Je ne regrette plus mes boutons. Bixiou. Et je fais comme Minard, je ne veux plus émarger pour si peu de choses, et je prive le ministère de ma coopération. Il sort au milieu des rires de tous les employés. Une autre scène plus instructive que celle-ci, car elle peut apprendre comment périssent les grandes idées dans les sphères supérieures et comment, si on console d'un malheur, se passer dans le salon de réception du ministère. En ce moment, des Lupeaux présentaient au ministre le nouveau directeur, M. Baudoyer. Il se trouvait dans le salon deux ou trois députés ministériels influents et M. Clergeau, à qui l'excellence donnait l'assurance d'un traitement honorable. Après quelques phrases banales échangées, l'événement du jour fut sur le tapis. Un député. « Vous n'aurez donc plus Rabourdin ?» Des Lupeaux. Il a donné sa démission. Clergeau. Il voulait, dit-on, réformer l'administration ? Le ministre, en regardant les députés. Les traitements ne sont peut-être pas proportionnés aux exigences du service. De la Brière. Selon M. Rabourdin, 100 employés à 12 000 francs feraient mieux et plus promptement que 1 000 employés à 1200 francs. Clergeau. Peut-être a-t-il raison. Le ministre. Que voulez-vous ? La machine est montée ainsi, il faudrait la briser et la refaire. Qui donc en aura le courage en présence de la tribune sous le feu des sottes déclamations de l'opposition ou des terribles articles de la presse ? Il s'ensuit qu'un jour il y aura quelques solutions de continuité dommageables entre le gouvernement et l'administration. Le député. Qu'arriverait-il ? Le ministre. Un ministre voudra le bien sans pouvoir l'accomplir, vous aurez créé des lenteurs interminables entre les choses et les résultats. Si vous avez rendu le vol d'un écu vraiment impossible, vous n'empêcherez pas les collusions dans la sphère des intérêts. On ne concédera certaines opérations qu'après des stipulations secrètes, il sera difficile de surprendre. Enfin, les employés, depuis le plus petit jusqu'au chef de bureau, vont avoir des opinions à eux, ils ne seront plus les mains d'une cervelle. Ils ne représenteront plus la pensée du gouvernement, l'opposition tente à leur donner le droit de parler contre lui, voter contre lui, juger contre lui. Baudoyer tout bas, mais de manière à être entendu. Monseigneur est sublime. Des Lupeaux. Certes, la bureaucratie a des torts, je la trouve élante et insolente. Elle en sert un peu trop l'action ministérielle, elle étouffe bien des projets, elle arrête le progrès. Mais l'administration française est admirablement utile. Baudoyer. Certes. Des Lupeaux. Ne fût-ce qu'à soutenir la papeterie et le timbre. Si, comme les excellentes ménagères, elle est un peu taquine, elle peut à toute heure rendre compte de sa dépense. Quel est le négociant habile qui ne jetterait pas joyeusement dans le gouffre d'une assurance quelconque 5% de toute sa production, du capital qui sort ou rentre, pour ne pas avoir de coulage. Le député. Les industriels des deux mondes souscriraient avec joie à un pareil accord avec ce génie du mal appelé coulage. Eh bien, quoique la statistique soit l'enfantillage des hommes d'État modernes, qui croient que les chiffres sont le calcul, on doit se servir des chiffres pour calculer. Calculons donc. Le chiffre est d'ailleurs la raison probante des sociétés basées sur l'intérêt personnel et sur l'argent, et telle est la société que nous a faite l'achat, selon moi du moins. Puis rien ne convaincra mieux les masses intelligentes qu'un peu de chiffres. Tout, disent nos hommes d'État de la gauche, en définitive se résout par des chiffres. Chiffrons. Le ministre cause à voix basse avec un député dans un coin. On compte environ 40 000 employés en France, déduction faite des salariés, car un cantonnier, un balayeur des rues, une rouleuse de cigares ne sont pas des employés. La moyenne des traitements est de 1500 francs. Multipliez 40 000 par 1500, vous obtenez 60 millions. Et d'abord, un publiciste pourrait faire observer à la Chine, à la Russie, où tous les employés volent, à l'Autriche, aux républiques américaines, au monde, que pour ce prix, la France obtient la plus fureteuse, la plus méticuleuse, la plus écrivassière, paperassière, inventorière, contrôleuse, vérifiante, soigneuse, enfin, la plus femme de ménage des administrations connues. Il ne se dépense pas, il ne s'encaisse pas un centime en France qui ne soit ordonné par une lettre, prouvé par une pièce, produit et reproduit sur des états de situation, payé sur quittance, puis la demande et la quittance sont enregistrées, contrôlées, vérifiées par des gens à lunettes. Au moindre défaut de forme, l'employé s'effarouche car il vit de ses scrupules. Enfin, bien des pays seraient contents, mais Napoléon ne s'en est pas tenu là. Le grand organisateur a rétabli les magistrats suprêmes d'une cour unique dans le monde. Ces magistrats passent leur jour à vérifier tous les bons, paperasses, rôles, contrôles, acquis à caution, paiements, contributions reçues, contributions dépensées, etc., que les employés ont écrit. Ces juges sévères poussent le talent du scrupule, le génie de la recherche, la vue des lynx, la perspicacité des comptes, jusqu'à refaire toutes les additions pour chercher des soustractions. Ces sublimes victimes des chiffres renvoient 2 ans après à un intendant militaire, un état quelconque, où il y a une erreur de 2 centimes. Ainsi, l'administration française, la plus pure de toutes celles qui paperassent sur le globe, a rendu, comme vient de le dire son excellence, le vol impossible. En France, la concussion est une chimère. Eh bien, que peut-on objecter? La France possède un revenu de 1200 millions, elle le dépense, voilà tout. Il entre 1200 millions dans les caisses et 1200 millions en sortent. Elle manie donc 2 milliards 400 millions, et ne paie que 60 millions, 2,5%, pour avoir la certitude qu'il n'existe pas de coulage. Notre livre de cuisine politique coûte 60 millions, mais la gendarmerie coûte davantage et ne nous empêche pas d'être volés. Les tribunaux, les bagnes et la police coûtent autant et ne nous font rien rendre. Et nous trouvons l'emploi de gens qui ne peuvent pas faire autre chose que ce qu'ils font, croyez-le bien. Le gaspillage, s'il y en a, ne peut plus être que moral et législatif. Les chambres en sont alors les complices, le gaspillage devient légal. Le coulage consiste à faire faire des travaux qui ne sont pas urgents ou nécessaires, à dégalonner et regalonner les troupes, à commander des vaisseaux sans s'inquiéter s'il y a du bois, et de payer alors le bois trop cher, à se préparer à la guerre sans la faire, à payer des dettes d'un État sans lui en demander le remboursement ou des garanties, etc., etc. Baudoyer. Mais ce haut coulage ne regarde pas l'employé. Cette mauvaise gestion des affaires du pays concerne l'homme d'État qui conduit le vaisseau. Le ministre, il a fini sa conversation. Il y a du vrai dans ce que vient de dire Delupeaux, mais sachez, à Baudoyer, monsieur le directeur, que personne n'est au point de vue d'un homme d'État. Ordonner toute espèce de dépense, même inutile, ne constitue pas une mauvaise gestion. N'est-ce pas toujours animer le mouvement de l'argent dont l'immobilité devient en France surtout funeste par suite des habitudes avaricieuses et profondément illogiques de la province qui enfouit des tas d'or. Le député qui a écouté Delupeaux. Mais il me semble que si votre excellence avait raison tout à l'heure et si notre spirituel ami, il prend Delupeaux par le bras, n'a pas tort, que conclure? Delupeaux, après avoir regardé le ministre. Il y a sans doute quelque chose à faire. De la Brière, timidement. Monsieur Rabourdin a donc raison? Le ministre, je verrai Rabourdin. Delupeaux. Ce pauvre homme a eu le tort de se constituer le juge suprême de l'administration et des hommes qui la composent. Il ne veut que 3 ministères. Le ministre interrompant. Il est donc fou? Le député. Comment représenterait-on dans les ministères les chefs des partis à la Chambre? Baudoyer. Peut-être M. Rabourdin changeait-il aussi la Constitution? Le ministre, devenu pensif, prend le bras de la Brière et l'emmène. Je voudrais voir le travail de Rabourdin, et puisque vous le connaissez, de la Brière dans le cabinet. Il a tout brûlé, vous l'avez laissé déshonoré, il quitte l'administration. Ne croyez pas, monseigneur, qu'il ait eu la sotte pensée, comme des lupeaux veulent faire croire, de rien changer à l'admirable centralisation du pouvoir. Le ministre, en lui-même, j'ai fait une faute. Il reste un moment silencieux. Bah, nous ne manquerons jamais de plan de réforme. De la Brière, ce n'est pas les idées, mais les hommes d'exécution qui manquent. Des Lupeaux, ce délicieux avocat des abus, entra dans le cabinet. Monseigneur, je pars pour mon élection. Attendez, dit l'excellence en laissant son secrétaire particulier et prenant le bras de Des Lupeaux, avec qui il alla dans l'embrasure de la fenêtre. Mon cher, laissez-moi cet arrondissement, vous serez nommé comte et je paie vos dettes. Enfin, si, après le renouvellement de la Chambre, je reste aux affaires, je trouverai l'occasion de vous faire nommer pair de France dans une fournée. Vous êtes homme d'honneur, j'accepte. Ce fut ainsi que Clément Chardin des Lupeaulx, dont le père anobli sous Louis XV portait un écusson avec N. Lupus in historia pour devise, put surmonter cet écusson quasi railleur d'une couronne comtale. En 1830, vers la fin de décembre, M. Rabourdin eut une affaire dans son ancien ministère où les bureaux furent agités par des déménagements de fond en comble. Cette révolution pesa principalement sur les garçons de bureau qui n'aiment guère les nouveaux visages. Venu de bonne heure au ministère dont les êtres lui étaient connus, Rabourdin put entendre le dialogue suivant entre les deux neveux de Laurent, car l'oncle avait eu sa retraite. « Eh bien, comment va ton chef de division ?»« Ne m'en parle pas, je n'en peux rien faire. Il me sonne pour me demander si j'ai vu son mouchoir ou sa tabatière. Il reçoit sans faire attendre, pas la moindre dignité. Moi, je suis obligé de lui dire. » Mais monsieur, monsieur le comte, votre prédécesseur, dans l'intérêt du pouvoir, il bûchait son fauteuil avec son canif pour faire croire qu'il travaillait. Enfin, il brouille tout. Je trouve tout sans dessus-dessous. C'est un bien petit esprit. Et le tien? Le mien, oh, j'ai fini par le former. Il sait maintenant où sont placés son papier à lettres, ses enveloppes, son bois, toutes ses affaires. Mon autre juré, celui-là, est doux. Mais ça n'a pas le grand genre. Il n'est pas décoré. Je n'aime pas qu'un chef soit sans décoration. On peut le prendre pour un de nous, c'est humiliant. Il emporte le papier du bureau et il m'a demandé si je pouvais aller servir chez lui des jours de soirée. Et quel gouvernement, mon cher. Oui, tout le monde y carotte. Pourvu qu'on ne nous rogne pas nos pauvres appointements. J'en ai peur, les chambres sont bien pré-regardantes, on chicane le bois des bûches. Eh bien, ça ne durera pas longtemps s'ils prennent ce genre-là. Nous sommes pincés, on nous écoutait. Eh, c'est défunt, monsieur Rabourdin. « Ah, monsieur, je vous ai reconnu à votre manière de vous présenter. Si vous avez besoin ici, personne ne saura ce qu'on vous doit d'égard, car nous sommes les seuls qui soyons restés de votre temps. Monsieur Colville et Baudoyer n'ont pas usé le maroquin de leur fauteuil après votre départ. 6 mois après, ils ont été nommés percepteurs à Paris. » Paris, juillet 1838.